papeles. Entonces, me sentí
Après, je me suis sentie bien, libre, bien, même si j'avais encore peur parce que j'étais sans papier et que j'avais un ordre de quitter le territoire dans les 10 jours.
Una orden de que salga en 10 días. Me quedó ese miedo ya.
J'ai continué d'avoir peur. Chaque fois que je voyais les policiers, j'avais le souvenir des menottes. Il m'a fallu longtemps pour calmer ce souvenir. Avant ça, j'avais jamais eu peur de la police.
On revient avec Marie-Yvonne, visiteuse de centre fermé. Marie, après ce témoignage donc touchant, vous êtes régulièrement en contact avec ces gens enfermés. Est-ce que vous pouvez nous décrire une image de la vie là-bas à l'intérieur et surtout des régimes? Ça veut dire pour un sans-papier qui arrive dans le centre, comment ça se passe pour lui du début jusqu'à la fin de l'arrestation, de l'enfermement à l'expulsion? Comment on vit ça? Donc voilà.
Alors, de ce que je vois et des témoignages que je reçois, la vie dans un centre fermé est vraiment une vie très très dure. C'est un régime carcéral. Je dirais même plus, c'est plus que dans une prison belge. Notamment, je suis assez révoltée du fait que depuis quelque temps, les réfugiés sont dans un régime de ségrégation, c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment avec les hommes et un bâtiment avec les femmes. Et il n'y a plus aucune connexion entre les deux. Même les heures de repas sont différentes. Les heures de douche, les heures de cours, tout ça est différent pour qu'il n'y ait pas de contact entre les hommes et les femmes, ce qui est vraiment aberrant et à la limite contraire aux droits humains. Alors, comment se sent un réfugié qui arrive dans un centre fermé? Mais je crois que pour lui, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête, parce qu'il faut bien se dire que les gens qui sont là, ce ne sont pas des criminels. Or, le régime des centres fermés les considère comme des criminels. Donc, toute leur attitude est tout à fait déstabilisée parce que, ils sont tout à fait considérés comme des criminels.
Dans la loi, peut-être on dit que c'est pas une prison, mais en réalité, c'est une prison. C'est un jeu de mots, c'est ça?
C'est absolument un jeu de mots. Et d'ailleurs, on parle beaucoup dernièrement d'humaniser les centres fermés. C'est une aberration. Pourquoi humaniser quelque chose qui, à la base, n'est même pas humain? Donc, ce que nous réclamons avec beaucoup d'autres ONG et associations, c'est qu'il n'existe plus des centres fermés. Que ce soit les centres fermés qui soient illégaux et pas les personnes qui sont dedans.
J'ai une question à poser. Quand un réfugié qu'on arrête, qui arrive au centre fermé, c'est quoi les choses qui doit faire? Est-ce qu'on le dit tout? On lui dit que tu vas prendre un avocat, tu as le droit à une assistance sociale, ou bien est-ce que ça
est-ce qu'ils expliquent vraiment leurs droits en centre fermé à l'avance ou pas?
Eh bien, pour le centre du 127 bis, il n'y a pas d'aide juridique à disposition des réfugiés. Donc, s'ils n'ont pas d'avocat, ils sont tout à fait paumés dans la nature. Et c'est un des rôles, comme je l'expliquais tout à l'heure, des visiteurs, c'est de leur expliquer leurs droits, d'expliquer ce qu'ils peuvent faire. S'ils n'ont pas d'avocat, d'en prendre un ou de leur en conseiller un, parce qu'il n'y a pas d'aide juridique de la part des services sociaux du 127 bis. Et bon, le job des assistants sociaux, c'est précisément de les préparer à une expulsion.
En fait, j'ai encore une autre question pour vous. Par exemple, vous êtes régulièrement visite de un centre fermé. Est-ce que vous avez droit de passer de n'importe quel endroit à l'intérieur du centre fermé, ou vous êtes bloqué dans un place ou dans un resto, exactement comme ça vous contactez, ou vous voyez vraiment la réalité, comment ils vivent, où les gens dorment et comment ils sont habillés, tout ça?
Bon, alors, en ce qui me concerne et en ce qui concerne la coordination contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation, la procédure pour aller visiter quelqu'un, c'est d'abord d'avoir son nom exact. Ensuite, on doit faire une demande à la direction du 127 bis en précisant qu'on veut rencontrer monsieur ou madame un tel, tel jour, telle heure. Alors, quand on arrive là, on doit passer dans une salle où on dépose ses effets personnels. On ne peut pas avoir son sac, pas de GSM, rien du tout. Et puis, on est emmené dans un endroit qui est une espèce de petit salon où il y a des tables, une télévision. Et puis, on amène les réfugiés qu'on est censé visiter. On amène, c'est-à-dire que les gardiens amènent les réfugiés. J'ai oublié de dire aussi que quand on arrive, qu'on a déposé ses affaires dans une consigne, on est également fouillé avec un détecteur de métaux. Et donc, on est dans la petite salle. Les réfugiés sont amenés par les gardiens. Ils ont auparavant aussi été fouillés. Alors bon, on s'assied, on parle avec la personne, mais les gardiens restent en permanence au fond de la salle. Ils font semblant de lire une revue, mais enfin, ils sont là, quoi. Voilà.
Parce que je rappelle, si vous m'excusez, je rappelle, une fois j'ai visité quelqu'un au centre fermé, ils ont fait la même chose que vous venez d'expliquer et ne me laissaient même pas un euro sur moi pour rentrer. C'est comme ça. Et la vite de les visiteurs donner l'argent à l'intérieur, à les gens, comme ça, ils achètent des cartes téléphoniques, quelque chose comme ça. Comme ça. Ils essaient toujours de couper la communication avec l'extérieur. Exagère aussi sur le niveau de la période de visite. À mon avis, c'était 20 minutes comme ça. En plus, le temps de 20 minutes, ça calcule le moment que vous êtes en contrôle, là, à attendre les portes rentrer parce que c'est trop sécurisé, si je rappelle bien. Est-ce que c'est toujours la même règle ou ça change?
Non, je pense que dès qu'on arrive et que, bon, c'est vrai que ça prend peut-être 5 minutes à partir de l'heure où la visite commence, le temps d'arriver dans la salle, que le réfugié arrive, mais grosso modo, au bout d'une heure, on fait signe. Donc, on a le temps de se voir pendant une heure. Mais ce que tu disais, au point de vue d'empêcher la communication, c'est tout à fait vrai, parce que c'est seulement depuis le mois de juillet ou du mois d'août de l'année dernière que les réfugiés pouvaient avoir un GSM personnel. Et encore sans caméra pour soi-disant des raisons de sécurité. Mais donc avant, ils n'avaient même pas le droit d'avoir un GSM, donc ils étaient tout à fait coupés de l'extérieur. Et donc c'est exact que bon, il y a un léger mieux de ce côté-là, mais bon, ce n'est pas encore l'idéal. Et alors, c'est vrai que le fait d'avoir un GSM permet des contacts avec l'extérieur, avec l'avocat, avec les visiteurs. Et donc, la CRER organise demain une distribution de GSM que nous avons récolté pour les remettre aux réfugiés du 127 bis.
Non, j'avais juste encore parce que tu dis, si tu dois dire le nom de la personne que tu veux visiter. Donc, comment savoir qui est arrêté?
Très bonne question. C'est un gros problème. Alors, nous avons une technique, une stratégie. C'est que régulièrement, nous allons avec une vingtaine de personnes devant les grilles du 127 bis. On fait du tapage, etc. Puis on voit quand même des gens qui apparaissent derrière les grilles. Et bon, on a un panneau avec le numéro de téléphone où ils peuvent nous appeler. Et donc, c'est suite à des coups de fil qu'on a des contacts. Alors, deuxième méthode aussi, ce sont les personnes qui vont visiter un réfugié. On leur passe le numéro de téléphone en disant, bon, on passe aux copains, etc. S'ils ont besoin d'aide, de nous appeler. Voilà. Mais savoir qui, aujourd'hui, à Bruxelles, est arrêté dans la rue, impossible à savoir.
Mais comme ça se passe ici à Steenhuyzen, il y a aussi des autres centres fermés. Est-ce que vous êtes en lien avec des autres réseaux? À Votem, à Maxplace, à Bruges.
On a des contacts avec le centre fermé de Votem, oui, bien sûr, parce que parfois il y a certains réfugiés qui sont libérés du 127 bis et qui sont déviés, je vais dire, sur Votem. Avec Maxplace, non, pas tellement, non.
Oui, parce que ça, c'est une des choses. C'est pour ça que hier, maintenant, parce que Merckxplatz, c'est plus éloigné. Je sais que la Ligue des droits de l'homme, il y a une personne qui y va, mais c'est tous les 15 jours. donc c'est un peu moins fréquenté. Voilà.
C'est vrai que ce serait l'idéal que tous les centres, enfin toutes les associations qui s'occupent des centres fermés soient en connexion. C'est vrai, ça pourrait beaucoup aider les choses. Et par exemple, notamment pour les expulsions. Parce que quand on apprend qu'une expulsion va avoir lieu le lendemain, c'est vrai qu'on le sait toujours la veille, on peut alerter tout un réseau par Internet, par GSM, et mobiliser des gens à l'aéroport pour parler aux passagers de l'expulsion qu'ils vont vivre sur leur vol, quoi.
Mais très récemment, je sais pas si vous êtes, c'était quelqu'un de, je pense, de, ah non, je vais pas dire, très récemment il y a eu aussi quelqu'un qui a refusé d'être expulsé, mais qu'il a mis dans prison à cause qu'il a rebellé.
Oui, c'est exact, oui. Oui, c'est quelqu'un que nous visitions au 127 bis. Oui, je ne vais pas dire son nom ici, mais bon, il était théoriquement expulsé sur un pays où il n'avait pas eu le laissez-passer de l'ambassade et un pays qui, pour l'instant, est vraiment déchiré entre deux présidents. Donc, ce n'était pas le moment de le renvoyer là-bas. Alors, quant à dire que ce réfugié s'est rebellé contre les policiers, là, je pense que la Belgique est dans le pays du surréalisme, mais quand même, un type qui est menotté aux pieds, aux mains et saucissonné devant deux flics et puis une dizaine de flics, dire que c'est lui qui a tabassé les forces de l'ordre, franchement, c'est à tomber par terre.
Ça me rappelle Guantanamo, ça, parce que menotter les mains, les pieds, c'est Guantanamo quand même. C'est...
Oui, tu as raison. D'ailleurs, il y en a qui disent que les centres fermés en Belgique, c'est le Guantanamo belge.
Voilà. En fait, est-ce que ça arrive un jour que vous êtes en visite et vous entendez, il y a quelqu'un qui était là en ce moment que vous êtes en visite et en expulsion? Oh, vous n'avez jamais au courant d'une expulsion au moment de visite?
Non, tu veux dire quand je parle avec quelqu'un, voilà, qui me dit... non, alors on peut me dire, bon, hier, un tel a été expulsé ou bien un tel est mis au cachot parce qu'il va être expulsé demain, mais voilà. Mmh. Mais c'est vrai que quand on arrive au centre du 127 bis, on voit les camionnettes bleues qui entrent, qui sortent et on se dit, bon, voilà. Ou bien c'est quelqu'un qui a été arrêté dans la rue ou bien c'est quelqu'un qui est emmené à l'aéroport.
J'avais encore une question sur... parce que je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais la Belgique a été condamnée déjà plusieurs fois pour la façon de traitement dans des centres fermés et la façon d'expulser des gens. Et même depuis Samir Adamou, qui était tu vois, il y a apparemment rien changé. Donc, ou c'est plus caché, ou tu vois, c'est... Comment ça se fait que...
C'est vrai que la Belgique a été condamnée de nombreuses fois pour sa politique de migration, et notamment pour ce qui se passe dans les centres fermés. C'est contraire à la convention de Genève qui dit que bon, tout réfugié a le droit tout État a le devoir d'accorder l'asile à une personne qui en fait la demande. Et donc, c'est vrai que le gouvernement cherche par tous les moyens à esquiver cette demande et ce devoir. Et c'est la raison pour laquelle la Belgique a été condamnée, tout récemment d'ailleurs, à propos d'un Afghan qui avait été expulsé sur la Grèce. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a les cas Dublin, c'est-à-dire, en deux mots, un réfugié qui arrive dans l'espace Schengen, et puis qui arrive en Belgique, la Belgique se lave les mains en disant non, tu dois retourner dans le premier pays, Schengen, voilà. Et donc la Belgique a été condamnée pour le cas de cet Afghan qui était renvoyé sur la Grèce. Or la Grèce n'a aucune politique d'accueil vis-à-vis des réfugiés, et donc la Belgique n'a pas pris en compte le fait que la Grèce était dans l'impossibilité ou la non-volonté de donner droit à la demande d'asile.
Mais je pense qu'ils sont, est-ce qu'ils sont pas encore si condamnés dans la façon qu'on y traite les gens, parce que très dans les témoignages, tu entends aussi des gens qui disent maintenant le coussin c'est interdit à utiliser à cause que Samira Adamou a été étouffée par un coussin. Mais maintenant il y a apparemment des matelas qu'ils utilisent comme tactique, qu'ils mettent la personne par terre, qu'ils mettent le matelas là-dessus, qu'ils tapent sur le matelas. Comme ça il n'y a pas trace de violence. Donc, ce sont quand même des choses.
Oui, c'est exact. Mais la personne dont on parlait tout à l'heure, qui finalement a été inculpée de coups et agressions, il n'y a aucune trace visible de séquelles des coups reçus. Oui, c'est vrai.
Parce que même dans le film illégal qu'ils ont été passés au cinéma, on voit ça, on voit des choses. Et. C'est quand même incroyable.
C'est vrai que la technique du coussin, je pense, n'est plus utilisée. Mais bon, il y a d'autres techniques qui permettent aux policiers de tabasser les gens sans laisser de traces. Oui.
Après tous les rapports critiques sur ce qui était passé, c'est grave. Quoi. Ouais.
Je crois, Anna, c'est la question.
Oui, vous avez dit donc... dès qu'on arrive au centre, il y a tout un travail de préparation donc, à cette... soi-disant fatalité, c'est-à-dire l'expulsion, elle est là, donc on essaie au maximum de préparer le détenu à accepter ça. Vous avez parlé aussi du cachot, donc la veille de l'expulsion, on met la personne au cachot, une cellule voilà, individuelle qu'on utilise comme dans les prisons pour punir voilà, les prisonniers qui se révoltent. Il y a des rumeurs aussi qui parlent du... De fait, des fois, on donne des calmants ou des médicaments pour faciliter l'expulsion. Est-ce qu'on peut confirmer ça?
Oui, c'est exact. Oui, beaucoup de réfugiés disent qu'on leur donne tous les jours des calmants, des anxiolytiques, bon, pour un peu annihiler leur volonté et leur... leur envie de refuser. Oui, c'est exact. Oui. Donc au niveau médical, il y a le fait que les demandes concrètes, par exemple des maux de dents, des maux de rein, etc., sont soignées uniquement par des aspirines et des médicaments tout à fait de base. Mais il y a aussi le fait que, je pense, on les dope un petit peu pour atténuer leur conscience et leur envie de réagir, oui.
Alors maintenant, je pense qu'on va passer à un deuxième témoignage.
La première question, c'est savoir comment tu es arrivé en centre fermé.
طلبت لقو اول ما عاد لي في الانترفيو طلبوا مني ان انا اروح لسنتر مغلق.
La première fois, j'ai demandé le refuge et après directement après la demande d'asile, on m'a envoyé au centre fermé.
Quand tu es allé à l'office des étrangers, ils t'ont directement pris en centre fermé.
Effectivement, juste au premier rendez-vous, au premier interview auprès de l'office des étrangers, j'étais reconduit au centre fermé.
Et combien de temps il a passé au centre fermé et s'il peut nous expliquer dans quel centre fermé ?
المدة كاملة كانت شهرين وأسبوعين قضيت بالضبط 57 يوم في سنتر زبنتم نقلوني لسنتر آخر اسمه ليج سنتر ليج كانت عبارة عن ضغط نفسي عبارة عن ضغط نفسي حرق أعصاب.
J'étais retenu pendant une durée de 2 mois et 2 semaines dans 55 jours dans le centre fermé de Zaventem. Et après, elle a été reconduite au centre fermé de Liège. Pour lui, c'était des conditions avec beaucoup de pression morale.
Est-ce qu'il peut nous parler plus des conditions et de la façon dont ça se passe à Liège? Parce qu'on a très peu de témoignages sur Liège.
ما فيش اختلاط بينه وبين الأمن مباشرة لازم نكلمهم من وراء الباب باب حديد طبعا باب سجن والخدمات بتبقى متأخرة جدا هناك بيبقى واحد عايز يروح للدكتور لازم يكتب اسمه الصبح الدكتور اللي هو مش موجود طبعا يعيش بألم وما فيش مشكلة ولو حد أي حد عيان بياخد نفس الدواء واحد أنواع أدوية أخرى هو دواء واحد لأي حد تعبان درسه سنانه بتوجعه ورجله بتوجعه
Pour le centre fermé de Liège, pour moi, c'est une prison, une vraie prison avec des portes de prison, des portes qui sont très lourdes. Déjà avec le personnel qui travaille au centre fermé, on n'a aucun contact direct, tout se passe derrière les portes. Je cite un exemple pour les soins médicaux. Pour voir le médecin, il faut prendre un rendez-vous le matin et après on va attendre, ou bien l'heure du consultation a passé, tu peux attendre avec tes souffrances et tes douleurs, il n'y a pas de souci à ça, tu vas attendre le lendemain. Et d'autant plus, on a constaté que les médicaments, on prenait un seul médicament standard qui était du genre de... Pour nous, c'était des somnifères, quoi. Et c'était le même médicament, que ce soit pour des maux de tête ou bien des douleurs aux dents, à l'estomac, ou, etc. Donc voilà, les services en général étaient très, très, très médiocres.
Quelle est la population qu'il y a au centre fermé de Liège? Est-ce qu'il y a des femmes et des enfants ou c'est seulement des hommes? Et est-ce qu'il y a beaucoup d'expulsions qui partent de ce centre fermé?
في ليج كانت فترتي قصيرة فما لحقتش ألم معلومات كبيرة كتيرة ما شفتش عائلات ما لحقتش ما سمعتش إن في عائلات هناك بس كانت طبيعتهم تقريبا كلهم ناس طيبين يعني ناس ما فيهاش مشاكل ما بيعملوش مشاكل نساء ما شفتش أنا من الحال كنت لما قالوا لي إن سنتر ليج كنت أعصابي كانت بايظة أكتر فما كنتش مهتم بقى أعرف إن كانت من سجن لسجن كانت نفسية كانت وحشة يعني.
Donc moi j'étais déjà dans le centre fermé de Zaventem, donc j'ai été transféré là-bas, donc déjà mon moral était cassé et je ne m'intéressais pas à savoir ce qu'il était par rapport aux d'autres détenus, mais selon lui il n'a pas vu des familles, il n'a pas vu aussi des femmes, mais les détenus qu'il a vus là-bas ce sont des gens tranquilles qui sont loin de tout problème, donc en dehors du centre.
Et est-ce qu'il peut parler un peu plus de comment il se sentait pendant tout ce temps où il était en centre fermé ?
عمره توقعت عمره دخلت قبل كده سجن ما دخلتوش الا في بلجيكا احساسي كان كنت دايما بقول انا تحت الارض يعني احساسي كان نفسي كانت تعبانه خالص تعبانه جدا شعري ابيض يعني شعري ابيض زياده كان شعر ابيض من المعاملات في الخارجيه بس عندما دخلت السنتر اعصابي زاد اكتر ومرض النفسي زاد اكتر يعني.
J'ai jamais pensé de me retrouver un jour dans un centre fermé, donc dans un centre pareil. Donc j'avais le moral très fatigué, j'étais très déprimé. C'était la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Donc j'avais une sensation d'être sous terre. Et c'est vrai que j'avais quelques cheveux blancs avant ma détention. Mais là, j'ai eu plus de cheveux blancs. Et durant toute ma vie, j'ai jamais été en prison. Et je me vois, une fois arrivé en Belgique, que j'étais voilà, effectivement en prison. Et tout cela, ça implique une grande souffrance morale.
Je voulais savoir peut-être depuis combien de jours il est sorti et comment il se sent depuis qu'il est sorti.
السجن بيموت يعني في ناس بتموت من السجن في ناس تخش السجن تموت يعني الناس بيجي لها مرض اللي مش مريض بيجي له مرض من السجن بالذات الأسباب غير معروفة إيه الأسباب السبب اللي أنا دخلت في السجن سبب مش جريمة مش جريمة ما عملش جريمة لا سارق ولا قاتل ولا ضرب حد ولا ما عملش حاجة
خرجت عندك مدة إيه؟
حالياً 4 أيام
Donc ça fait 4 jours que je suis sorti du centre fermé. J'ai un double sentiment, j'ai une petite joie parce que je ne suis plus en détention, je ne suis plus en prison. Et en même temps, j'ai un sentiment très négatif dû à la souffrance que j'ai dû subir. Et même actuellement, je n'arrive pas à penser, mes pensées sont paralysées. Donc je subis toujours les séquelles de l'emprisonnement. Parce que croyez-moi, la prison tue, c'est pas un truc facile. On peut rentrer sain et en sortir malade. En détention, on tombe malade et on ne sait pas de quoi. C'est juste le fait d'être détenu. Ce qui me blesse le plus, c'est que moi, je ne suis pas criminel et je n'ai pas fait un crime pour mériter cette détention. Donc pour moi, c'est toujours incompréhensible pourquoi j'étais détenu.
Et par rapport au principe même du centre fermé, d'enfermer des gens parce qu'ils sont à un endroit où on considère qu'ils ne devraient pas être.
هم سايبين الناس اللي عاملة جرائم في الشوارع هم عارفين الناس دي بتعمل كده وسايبينهم بس بيجوا على الناس اللي عايزة تعيش بطريقة سلمية وطريقة مشروعة ما يوافقوش عليهم ويوافقوا على الناس اللي بتسرق وبيعوا مخدرات.
Donc pour moi les centres fermés ne doivent pas exister parce que tous les gens qui s'y trouvent ne sont pas des trafiquants, ne sont pas des voleurs, ne sont pas des délinquants. Selon lui, on laisse ce genre de malfaiteurs libres dans les rues et tous les gens que tu rencontreras en centre fermé sont des gens pacifiques, des gens qui voulaient vivre en situation régulière. Et voilà, donc leur place n'est pas là-bas parce qu'ils n'ont commis aucun crime. Donc c'est injustifié leur détention dans ce genre de centre.
هي أي شخص بيخش كل سنتر بيتعلم الكره بيكون جاي حابب البلد حابب يعيش فيها بيتعلم من اللي بيشافه من الظلم اللي شافه كل واحد قالها أنا سمعتها من جميع الجنسيات اللي شفتها أنا إذا شفت واحد بلجيكي في بلدي هموته هقطع رقبته دي الكلمة دي سمعتها بجميع اللغات هو بيربي كره بسبب إن أنا دخلت تاني سجني بسبب من غير سبب وبيتعاملني معاملة وحشة من غير سبب ده سبب إن أنا جاي بمد إيدي عشان أعيش معاك بسلام وفي خلال في نفس الوقت أنت بتسايب الحرامية وسايب التجار المخدرات فأنت بيكره فأي واحد طالع بيبقى فيه كره عايز يعمل حاجة وحشة.
Ce que j'ai aussi constaté, c'est que ce genre de centre nous imprègne avec un sentiment de haine contre tout. Parce qu'on se demande pourquoi. Et donc, il y a un sentiment de haine qui grandit en nous, que nous n'avions pas avant, parce que c'est en tendant la main qu'on est venu. Donc, espérons avoir un soutien, une aide, une vie honorable. Et par rapport à cette main tendue, c'est une détention avec des conditions de vie qui ne sont pas correctes, avec des comportements presque inhumains. Et moi, j'ai dû entendre à plusieurs reprises des gens qui ont dit « Moi, si je retourne dans mon pays et je vois un Belge, je me vengerai. » Donc, c'est ça, au fait, ce que font les centres fermés. Cela m'inquiète parce que c'est pas ce qu'on espère en venant ici.
Après ces témoignages, on va terminer sur ce que le soutien, ce que les personnes en dehors des centres fermés peuvent faire pour soutenir et pour lutter contre ce régime d'expulsion. On a déjà entendu des témoignages de l'action d'hier, donc des actions devant les centres fermés. On a eu Marie-Yvonne ici qui nous a parlé de son travail comme visiteuse de prison. Là-dessus, tu voulais aussi lancer un appel.
Oui, bien sûr, parce que donc à la coordination contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation, on essaie d'étoffer le réseau des visiteurs. Et donc, je lance un appel à tout le monde. Si la mobilisation contre les expulsions et l'enfermement dans les centres fermés vous dit quelque chose, vous contactez la CRER au numéro de téléphone 0474-08-85-35. Je signale d'ailleurs que nous avons besoin de visiteurs qui parlent l'arabe parce que beaucoup de réfugiés pratiquent cette langue. Voilà. Je donne aussi l'adresse mail de la CRER. Mmh. Alors, c'est C2ORD pour coordination et puis 100 papier en un mot au pluriel @hotmail.com. Je répète, COORD 100, le chiffre 100, papier, tout attaché, papier au pluriel, @hotmail.com. Voilà. Et alors, dernière petite annonce, demain à 14h devant le 127 bis à Stenokerzeel, il y aura une manifestation, toujours pour dire que les centres fermés ne doivent pas exister en Belgique, mais plus pratiquement pour faire la distribution des GSM sans caméra que nous avons récolté. Et si vous venez demain et que vous avez un GSM, apportez-le, on trouvera toujours bien une petite place pour le mettre dans le paquet et le remettre aux détenus du 127 bis.
Et à propos de ça aussi, il y a encore un autre réseau qui va être en lien avec le réseau des visites. C'est un réseau pour créer un comité d'action contre les expulsions à l'aéroport. Donc pour être là à l'aéroport au moment de l'expulsion, pour essayer de déclamer surtout qu'on n'est pas d'accord avec ce régime d'expulsion, mais aussi pour essayer d'éviter cette expulsion. Si vous êtes intéressé à participer à ça, il faut écrire un mail à nodeportationbruxelles@trisia.net, mais je vais dire très brièvement, c'est nodeportation, donc N-O-D-portation, B-X-L, @RISEUP.net.
Moi, je veux juste rajouter quelque chose au moment des arrestations. Quand un policier nous arrête, il faut bénéficier de tous les recours, car on a le droit aux recours et les appels. Il faut aussi, dans les commissariats, il faut dire que j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un interprète, d'un médecin, et essayer d'appeler quelqu'un pour l'avertir de votre arrestation. À l'extérieur aussi, vous pouvez contacter des gens de l'extérieur, un maximum de gens, contacter les associations, rester en contact avec son avocat, les associations et les associations qui peuvent faire des pressions sur le consulat pour ne pas délivrer le fameux laissez-passer. Et l'avocat ou l'avocat de prud'homme, si on n'a pas les moyens, il peut faire des recours, il peut faire des appels pour empêcher les expulsions.
Moi pour finir, donc un petit retour là sur les chiffres de tout à l'heure. Bon, c'est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais des fois il faut les faire parler. On constate qu'il y a une recherche de rentabilité dans la politique d'expulsion. Ça veut dire qu'au moment de l'arrestation, déjà, il faut vérifier si c'est vraiment la personne expulsable ou pas. Parce que même il y a, par exemple, en 2008, il y avait 24 000 arrestations dans la rue et 3 000 enfermements. Donc, c'est-à-dire, déjà, on vérifie, on fait un tri. Aussi, donc, il y a une politique donc, de rentabiliser ce travail. Mais la question que je me pose, moi, est-ce que vraiment cette politique-là, est-ce que c'est ça qui va résoudre cette problématique d'immigration, c'est juste un moyen de dissuasion? Si c'est le cas, pourquoi punir les autres pour faire peur à d'autres? Il y a beaucoup de questions à se poser, à faire de la réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu'on cherche avant tout? Juste faire plaisir à un électorat, parce qu'on sait bien qu'on peut jamais arrêter le flux migratoire et que peut-être il est temps de remettre cette problématique d'immigration au centre, de nos questionnements. Bon, malheureusement, j'avais d'autres choses à dire, mais c'est la fin de l'émission. Donc
alors, on peut faire peut-être une autre prochaine émission sur vraiment lancer le débat, donc pour un peu de politique sans frontières.
Alors, pour moi, c'est juste dernier mot. Je conseille toutes les activistes et tout le monde qui soutient les sans-papiers. Il faut arrêter cette exploitation de centres fermés. Au lieu de construire le centre fermé, il faut allouer la maison sociale pour loger les SDF. Alors, c'est arrêter cette expulsion, arrêter ces centres fermés. Alors, moi, Faisal, je vous remercie les invités et notre équipe. Alors, Madame Marion, la visiteur, et notre invité d'aujourd'hui. Et Monsieur Patrick, et notre équipe, Gwendoline, Saïd, Céline et Anas, et notre technicien, Guillaume, et moi, Faisal.
Et Aurigon.
Et Aurigon aussi. Merci à l'éditeur.
old Mother Earth here down under. Is there anyone who knock, knock, knocks on heaven's door? I wonder. Thank you.
Ieder mens heeft recht op een absolute vrijheid van mening en expressie. Tolerantie voor alle ideeën, zelfs de meest afgrijzelijke en de meest afwijkende. Intolerantie voor elke onmenselijke handeling waartoe ze als voorwendsel zouden dienen. Artikel 30. Ieder mens heeft het recht om kritiek te leveren op wat het meest zeker lijkt of wat doorgaat voor de fundamentele waarheid.
Artikel 4.
En het tegen te spreken.
Ieder mens heeft recht op kennis.
De wildste speculaties.
Artikel 5.
De meest krankzinnige beweringen bezaaien op hun eigen manier het veld van de toekomstige waarheden en voorkomen dat de waarheden van een tijdperk tot absolute autoriteit worden verheven.
Ieder mens.
In de wildste fictie, in de meest vluchtige leugen, ligt een vonk leven die alle vuren van het mogelijke kan aanwakkeren.
Ieder mens heeft het recht om zich te verplaatsen.
Artikel 31.
Waar?
Ieder mens heeft het recht om niets voor heilig te houden.
Artikel 8.
Geen enkel idee.
Ieder mens.
Geen enkele mening.
Heeft recht op gratis.
Geen enkel geloof mag ontsnappen aan kritiek, spot, hoon, humor, parodie, karikatuur, imitatie.
A.
De wereld is alleen bewoonbaar op voorwaarde dat er niets wordt gerespecteerd, zegt Georges Bataille. Eender wie die zich opstelt als God, Messias, profeet, paus, imam, priester, rabbi, pastoor of andere goeroe, die zich vanaf het moment dat men zijn dogma, overtuiging of geloof persifleert, luidkeels beklaagt over godslastering, vervloeking of afvalligheid, mobiliseert de ondraaglijke verdrukking van het menselijke uit het verleden. Als religie op persoonlijke titel beoefend wordt, gaat het om een privé-transactie tussen de acoliet en zichzelf. Het is daarentegen onaanvaardbaar dat religie wordt opgelegd onder de dekmantel van een openbare instelling waar mensen houden te buigen.
Die door en voor de gemeenschap
artikel 32.
Worden geïnstalleerd.
Ieder mens heeft recht
artikel
op verandering.
8. G.
Artikel 33.
Heeft het recht om
ieder
gratis
mens
te genieten
heeft recht
van natuurlijke bronnen en natuurlijke energie.
In tegenstelling tot de emotionele chaos die ons steeds dreigt
artikel
te overwelgen,
9.
Helpt de
ieder
door bewustwording genomen afstand
het recht
om ons weer meester te maken van onszelf en onze impulsen te verfijnen
op wetenschappelijke experimenten.
Zonder kracht weg te nemen.
Om zo te garanderen
artikel 34.
Dat ze de mens
ieder mens heeft recht op de geneugte van elke leeftijd.
Artikel 10 A 1.
Artikel 35.
Ieder mens
heeft
recht,
het recht
een verbond
het lijden te weigeren.
Artikel 10 A 2. Ieder mens heeft
artikel
het recht
36.
Om zichzelf te zijn.
Ieder mens
het
heeft het recht om te geven en zich te geven zonder zich op te offeren.
Artikel 10
artikel 37.
Ieder mens heeft het recht op
heeft het
authenticiteit.
Recht om te ontsnappen aan frustratie of ontevredenheid te vervangen
B1.
Door het onverzadigbare.
Ieder mens heeft het recht
artikel 38.
Op een verbond
ieder
zijn
mens
gelijken.
Heeft recht op zijn twijfels en zekerheden. Artikel 39. Ieder mens heeft recht op excessen en matiging. Artikel 40. Ieder mens heeft het recht om zich te vermaken. Artikel 41. Ieder mens heeft het recht op de vrijheden van de droom en de verbeelding.
Artikel 10.
Artikel 42.
Alle mensen
ieder mens
hebben het recht,
om
zich
op
te
groeperen
op basis
van
affiniteit.
Die de frustraties en de brutaliteit
artikel
van de wereld op macht
vertoont,
stelt het mens
ieder
het
mens
behoedheid,
heeft het recht
opgewekt
om nationale overheden te vervangen
zijn
door een kleine mondiale federatie van kleine lokale gemeenschappen. Waar
ieder
de kwaliteit van de individu
op welzijn,
borg
van zijn lichaam
voor de menselijkheid van de samenlevingen.
Te lang gereduceerd tot de machine
10,
die produceert,
C.
consumeert,
ieder mens
werkt,
heeft
denkt,
recht op
staat
een verbond
punt,
met de natuur.
Die leven in hem in stand houdt,
artikel 10,
en de onmetelijke rijkdommen van het
ieder mens heeft het recht om zich te verzoenen met het dierlijke in zich.
Artikel 44.
Artikel 1. 1.
Ieder mens 11. heeft het recht
Ieder mens
om zich naar eigen goeddunken mooi te maken.
Om zijn eigen bestaan op te bouwen.
Het verlangen om het verdwaald te veranderen. Om te
ieder
verrassen,
mens
zichzelf te laten zien. De nieuwsgierigheid te prikkelen. Geeft iedereen te het recht zich te verkleden.
Artikel 13.
De kleuren.
Ieder mens
aan
heeft
te kleden,
het recht om
te verbergen.
Waar de
zich
vooruitgang
op te smukken,
van
de meest uiteenlopende versieringen louter gevolg geeft aan een fantasie zonder enige mode, traditie
Artikel
of conventie te erkennen.
Ieder mens heeft het